Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Olivier Babeau, président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux, qui a publié « La tyrannie du divertissement ». Ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie chez Buchet-Chastel. C'est pendant les loisirs que se creusent les inégalités.
Absolument, c'est la thèse du livre. On ne s'en rend pas compte parce qu'autrefois, c'était plutôt dans le travail que faisaient les inégalités. Aujourd'hui, on vit beaucoup plus dans le loisir. Le travail, c'est 15% de notre vie, hein, éveillé hein, à la fin de la vie aujourd'hui. C'est quand même pas grand-chose. Et donc, les inégalités, elles se font dans le loisir. Voilà, on vous demande des comptes sur ce que vous faites dans votre temps libre. Et ça, on ne l'a pas dit à tout le monde.
Christian Parizeau, économiste conseiller auprès d'Aurel BGC. Et Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Les enjeux du jour, Olivier Babeau, autour de la réforme des retraites. On connaîtra, alors il y aura un vote. Et évidemment, voter une motion de censure, c'est pas comme voter en direct un texte de loi. Donc, d'ailleurs, pour la petite histoire, ce qui est marrant, c'est que tous les grands gestionnaires que j'ai pu rencontrer, passer les frontières françaises, ils savent pas ce que ça veut dire 49.3. Et donc, il a fallu commencer en anglais à envoyer des infos pour les leur dire, voilà, pour leur expliquer que pour eux, il n'y a pas eu de vote, donc la réforme n'est pas passée. Oui. Et que le 49.3, c'est quand même plutôt que la réforme est passée. Et donc, certains commençaient à s'inquiéter. Quoi, la réforme des retraites ne passe pas? Bon, voilà.
Mais ils parlent comme ça.
Ouais, non, non. Ah, mais bon. Donc, voilà. Donc, on aura le vote au Parlement, je crois, vers 16h. Comment vous regardez cette journée et la suite?
Alors, c'est évidemment une journée importante. Quand même, l'hypothèse qui tient à la corde, c'est que la motion de censure ne soit pas adoptée et que la loi passe, oui. Naturellement. Aura-t-elle un problème avec le Conseil constitutionnel? En tout cas, pas un problème fondamental sur l'âge. Il y a peut-être certaines mesures qui pourraient être toquées, mais ça ne remettra pas en cause l'ensemble de la loi.
Il pourrait y avoir un problème parce qu'on pourrait considérer qu'il y a des cavaliers législatifs.
Voilà, voilà. Ce qui, entre nous, c'est pas la première fois qu'il y a des cavaliers. Il y en a partout, ouais. Tout le temps. Oui. La question, c'est est-ce que le Conseil constitutionnel siffle un peu la fin en disant, bon, allez, ça va pas. Mais, vraisemblablement, ça va pas remettre en cause profondément.
Je ne pense pas qu'il ait été discrètement consulté avant, quand même, le Conseil constitutionnel.
Peut-être. Maintenant, ça dépend de son humeur, c'est compliqué.
Oui, c'est vrai.
Sur ce moment-là. Mais la vraie inconnue, d'abord, c'est la réaction des gens, la réaction sociale. Est-ce qu'il y a une forme d'embrasement, une gilet jaunisation dans les jours qui viennent, ou au contraire, ça va redescendre? En tout cas, ce qui est intéressant dans ce phénomène, puisqu'on parlait tout à l'heure des marchés financiers, c'est qu'il y a quand même un secret de Polichinelle. Est-ce un secret d'ailleurs? Non, c'est probablement quelque chose qui a été mal expliqué et qui bizarrement fait scandale chez certains. C'est le fait que quand vous êtes un grand débiteur, vous vivez aux dépens de ceux qui vous donnent. Or, la France doit 3 000 milliards de dettes. Elle va toutes les semaines emprunter 6 000 milliards. Elle a des comptes publics qui sont exsangues. On a 57% de dépenses en pourcentage de notre PIB de dépenses publiques. C'est 46% de prélèvements obligatoires. Ce que nous coûte la dette chaque année, c'est entre 50 et 60 milliards cette année, le coût, oui, de la dette.
Hein. C'était 31 en 2021.
Voilà, c'était formidable. 57. Le problème, justement, c'est que là encore, on a le choc thermique. Que cette réforme de retraite, si elle a été faite par Macron, c'est probablement pour une raison finalement assez simple. C'est le moment, l'endroit où on peut trouver le plus facilement possible des économies rapides pour un truc qui est autour de 350 milliards par an. C'est la plus grosse politique finalement de l'État. C'est les plus gros transferts. C'est là où on se dit, tiens, on va pouvoir non seulement ne pas avoir les 30 milliards qu'on dépense chaque année, vous savez, pour le trou sur les retraites du public, qu'on n'avait pas vu jusque-là, mais on arrive à les identifier. Et puis, les déficits qui arrivent. Donc voilà, il y a quelques dizaines de milliards à économiser. C'est pas certain que la réforme finisse par nous permettre de les économiser, mais c'était bien ça l'idée. Le risque, si jamais ça ne passe pas...
C'est la réforme qui permet, voilà, de faire des grosses économies d'un coup et de manière annuel.
Exactement. Et puis, plus symboliquement, c'est la réforme qui permet de dire, regardez, on tient encore nos troupes, on tient le pays, les comptes, on arrive à... Alors certes, on est mauvais, mais on est sur une bonne trajectoire. Donc, la signature de la France, vous pouvez encore avoir confiance en elle. Et donc, l'idée est que, quand même, ça permettrait de détendre ou de ne pas faire augmenter, évidemment, notre taux d'endettement. C'est 1% d'endettement en plus. C'est 3 milliards tout de suite de coûts pour nous. Hein. Et donc, assez rapidement, ça devient assez dur. Voilà, donc, l'hypothèse, et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que même les gens qui sont contre, hein, disent, mais regardez, c'est pour faire plaisir au marché financier. Bah oui, mais enfin, si on ne devait pas 3 000 milliards au marché financier, enfin, un peu moins en réalité, parce qu'il y en a effectivement une partie qui est à nous, une partie qui est aux banques centrales, mais enfin, en gros, si on n'avait pas autant d'argent, si on n'était pas obligé tout le temps, en permanence, d'aller allaient leur emprunter, bah c'est sûr, on serait plus, beaucoup plus détendu et on pourrait dire, bah, sur les retraites, c'est déficitaire, mais on s'en fiche, bah, on va budgétiser ça, on va mettre ça. Mais non, c'est, malheureusement, c'est pas possible à cause de l'argent. Voilà, c'est le grand secret et c'est ce qui, paradoxalement, met le feu encore plus aux poudres parce que c'est désagréable pour un pays de se rendre compte qu'il est dépendant de l'extérieur, mais c'est le cas.
Voilà. Vous considérez, Mathieu Plane, que le président de la République a eu raison de parler, de lier la réforme des retraites avec la signature française, ou que c'était une prise de position politique qu'il aurait peut-être, dont il aurait peut-être pu faire l'économie, en fait. Même si on a tous en tête le fait que, oui, il y a un lien entre la crédibilité, soutenabilité de la dette et la dynamique de la dépense publique, et qu'une réforme des retraites, c'est considéré comme un bon signe par ceux qui nous prêtent de l'argent.
Alors, évidemment que ça peut être considéré comme un bon signe. Après, de dire qu'on a l'épée de Damoclès des marchés sur la tête, je relativiserai, hein, parce qu'effectivement, on est sur un horizon à 2030, sur un gain de 10 milliards structurel. Hein.
On augmente la croissance potentielle.
Mais par contre, on augmente la croissance potentielle. Mais à court terme, ça ne fait pas d'économie. Même, on a même des dépenses supplémentaires. Hein. Sinon, après, si vraiment on avait un problème, il faudrait augmenter les ressources fiscales. C'est comme ça qu'on peut gagner très vite de l'argent. Donc bon, c'est plutôt la trajectoire de long terme. Je ne suis pas sûr que les marchés regardent cette trajectoire de long terme ou le croissance potentielle en détail. Hein. Ils font leur compte à 2030. Je pense qu'ils attendent peut-être des réformes de la France. Le problème, c'est qu'elle a été assez malmenée, cette réforme, pour moi. C'est pas tellement l'idée de dire qu'il faut pas faire de réforme, hein. Il y avait des besoins de financement, hein, qui étaient assez clairs et assez nets. C'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de dialogue dans ce pays. Enfin, on le voit. On est face à des blocs qui se confrontent, de façon assez forte. Il y a la question de savoir est-ce qu'il fallait privilégier la durée de cotisation, le report de l'âge légal. Le report de l'âge légal fait des économies rapides, mais on voit que c'est assez injuste.
C'est pour ça que c'est le problème. C'est
bien pour ça qu'on a des économies. On va faire porter les économies sur quoi ? Sur des actifs qu'on commence à travailler plutôt plus jeunes et qui sont pas dans les carrières longues. On va leur demander d'aller plus loin. Alors qu'effectivement, d'autres vont pouvoir prendre leur retraite à 64 ans sans avoir les durées de cotisation. Donc on a créé une espèce d'usine à gaz aussi, quand même, qui est compliquée. On aurait pu imaginer des décotes un peu différentes. Enfin bon, je pense qu'on aurait pu faire.
Je me demande si on pouvait éviter.
On n'a pas parlé du tout de la répartition intergénérationnelle de tout ça. On a bien revalorisé les pensions de 5% l'année dernière. Enfin, je veux dire, on pouvait mettre sur la table toutes ces cartes en disant, voilà, on a un besoin de financement important, il va falloir travailler certainement plus longtemps tout au long de la vie, mais comment on répartit correctement cet effort ? Je pense que ce discours en disant, c'est pour votre bien, c'est de gauche, c'est des mesures sociales, ça n'a pas marché. Et les gens ont bien compris que c'était pas OK. Et donc, si vous voulez, vous risquez aujourd'hui, moi je pense que les marchés ou les étrangers vont être inquiets du climat social en France. Du climat social. Je veux dire, on n'est pas capable aujourd'hui de faire une réforme sans que ça finisse très mal. Et donc, vous imaginez bien, c'est quel est l'horizon de tout ça ? Ça veut dire quoi ? C'est quoi les réformes à venir pour la suite ? Ça veut dire quoi l'élection de 2027 ? Quelle trace ça va laisser politiquement ? Tout ça, c'est pas juste une réforme paramétrique. On a des conséquences politiques à tout ça, et c'est plutôt ça qui m'inquiète, y compris d'ailleurs pour les investisseurs étrangers ou les marchés.
Je me demande si une réforme des retraites peut se passer sans douleur. Si, parce qu'on dit toujours, ah, ça a été mal expliqué, ça a été mal abordé, il aurait fallu faire différemment, parler aux gens différemment.
Bah, vous voyez, en 2019.
Regardez, si j'avais abordé le sujet uniquement.
En 2019, moi j'avais trouvé ça pas mal, hein. C'est-à-dire que la réforme, d'abord je préférais la première réforme, hein, qui était proposée, qui
avait plus d'ambition. Ah, la réforme systémique.
Une réforme structurelle avec
là,
un régime universel.
Ils sont emmêlés les pinceaux.
Ils sont emmêlés les pinceaux, et après il y avait eu.
Il était deux doigts d'être voté, c'est le Covid.
À partir du moment où on avait ajouté au système à points l'histoire de l'âge de pivot,
c'était Edouard Philippe qui voulait 12 milliards. Créé une conférence de financement en disant, bon, bah, si vous voulez pas de l'âge pivot, trouvez-moi 12 milliards. Mais il y avait eu quand même ce n'est pas la conférence de financement qui a été, pas avec les syndicats. Justement, pour dire, bah, on fait un peu de durée de cotisation, il faut voir quels sont les paramètres sur lesquels on peut jouer. Il aurait fallu ouvrir quand même ce chantier de qui porte l'effort aussi, de tout ça. Je pense que les Français peuvent entendre qu'il va falloir travailler plus longtemps, qu'effectivement l'espérance de vie augmente, qu'il y a un effet
de financement. J'ai beaucoup d'auditeurs qui me disent, mais pourquoi est-ce que les retraités riches n'ont pas été mis à contribution?
Non, mais je veux dire, tout ça n'a pas été discuté. Donc, et je pense que c'est quand même un problème. Après 3 ans de choc économique quand même majeur, hein, on a quand même une crise Covid. Énorme, une crise énergétique aujourd'hui, et puis en même temps Bruno Le Maire dit qu'il y a des besoins d'investissement dans la transition énergétique entre 50 et 60 milliards par an, et on est en train de se batailler sur cette... Je pense qu'il y a un petit souci là-dessus, sur les enjeux politiques et l'aboutissement de tout ça. Moi, ça m'inquiète un peu, en fait.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est justement c'est ce dernier point, moi, qui m'inquiète. C'est le fait qu'on va avoir des dépenses publiques qui vont énormément progresser dans tous les pays du monde.
On le sait.
Que ça soit pour la dépense, la transition énergétique. Et le problème, c'est que la France est très mal placée. Pourquoi ? Parce que la France a déjà un taux de prélèvement très élevé. Donc, on peut toujours monter plus haut. Mais enfin, à un moment donné, on se dit que c'est pas soutenable. On a eu les gilets jaunes qui nous nous ont montré que finalement on pouvait pas non plus aller dans la fiscalité à des niveaux déraisonnables. Et puis après, ça atteint la compétitivité du pays, tout ça. Enfin, et ça baisse les recettes fiscales. Donc, on peut pas monter dans les taux de prélèvement. Et donc, le seul levier qu'avait aujourd'hui le gouvernement pour assurer finalement les dépenses à venir, c'était d'augmenter la croissance potentielle. Et moi, je pense que je conçois cette réforme de retraite. Derrière, c'était plutôt l'idée qu'il fallait faire passer, qui était de dire, on ne sait pas comment on va financer les futures dépenses de l'État. Parce que aujourd'hui, tout le monde nous dit, il y a plein d'économies à faire, mais on s'aperçoit qu'aucun gouvernement y arrive. On nous dit, il y a des économies à faire dans l'éducation. Ah ben non, faut pas y toucher. Dans la défense, c'est pas le moment. La partie dette, on ne maîtrise pas parce que c'est les taux d'intérêt auxquels on emprunte et puis ça peut exploser ou revenir en arrière, mais on sait pas du tout, on n'a pas de visibilité. Alors, trouvez-moi un poste dans lequel on a beaucoup d'économies. Comme on n'a pas de poste dans lequel on a beaucoup d'économies, le seul moyen, c'est de faire augmenter la base fiscale. Et comment on fait augmenter la base fiscale? En ayant plus de croissance et en faisant travailler les gens plus longtemps et de manière plus importante. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est comment on va financer demain toutes les dépenses qu'on a.
Si on devait refaire le film, je ne sais pas quel serait le message principal qu'il faudrait mettre vis-à-vis de cette réforme des retraites. Le côté intergénérationnel, le côté croissance potentielle pour financer les dépenses de demain incontournables, le côté sauvegarde d'un système par répartition, ce qui a été le principal message porté par le gouvernement. Je ne sais pas s'il y a un message meilleur qu'un autre.
Non, bah qui est mieux reçu après, qu'un ils sont autre. Pas. Je pense que la communication a été assez mauvaise parce que, effectivement, initialement, il y avait cette idée de. Et Emmanuel Macron l'avait un peu dit, dire en fait, on va faire cette réforme pour rééquilibrer la gestion de retraite, mais aussi rapporter de l'argent pour financer d'autres choses. Et ça a été mal interprété ou mal vu. Et donc, ce qui était derrière le discours, en fait, il faut augmenter la base fiscale avec la croissance potentielle. Qui est un peu cette idée-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gains de productivité faibles, et donc, si vous voulez à long terme augmenter l'offre de travail, il faudra travailler plus longtemps. Gros.
Vous avez vu quand même que Bruno Le Maire s'est quasiment engagé à réduire de 3 points la dépense publique, enfin en tout cas à passer le poids de la dépense publique de 57 à 54 en 2024.
En 2024.
En 2024.
Ah oui.
Il a dit qu'il voulait qu'on soit à 54% en 2024 avec plusieurs milliards d'économies.
Alors, ce qu'il anticipe, un arrêt des aides anti-inflation. C'est
peut-être les mesures d'urgence qui s'arrêtent quand même.
Il est possible que ce soit
58 milliards cette année quand même.
Il y a pratiquement 3 points. Il y a un peu moins de 3 points de PIB encore des mesures d'urgence. En fait, on va avoir une bonne surprise, honnêtement, cette année en 2022 sur le déficit. C'est qu'il va être certainement moins élevé que prévu. On sera peut-être plutôt à 4,5 qu'à 5.
2023.
Non, 22. 22. Oui. Non, je reviens sur. Non, c'est 22. On connaît pas le déficit. La prévision était à 5.
Oui,
le gouvernement
était à 5.
Et on serait plutôt à 4,5. Et dans ces 4,5, il y a encore quand même beaucoup de mesures d'urgence. Pourquoi, en fait, le déficit a été plus bas? C'est que, en réalité, ce qu'on appelle les élasticités, les recettes fiscales ont été très dynamiques. Et avec le retour de l'inflation, ça génère aussi des recettes fiscales.
Et oui.
Et donc, il y a quand même des effets comme ça. Donc, après, c'est quel est l'objectif de déficit à 2027? Est-ce que c'est 3%? Comment on l'atteint? Effectivement, d'ici 2027, sachant qu'il va y avoir l'épuisement d'un certain nombre de mesures. Mais la question est quand même fondamentale parce que ces mesures, notamment encore en 2023, anti-inflation, énergétique, c'est comment elles sont poursuivies sur 2024-2025. Est-ce qu'on va retrouver un scénario normal? C'est quelle est d'ailleurs la politique qu'on peut avoir? Quelle va être la trajectoire sur l'énergie? Et est-ce qu'on va retirer les boucliers et tout ça? Parce que ça représente beaucoup d'argent. Donc en fait, effectivement, le point de bascule, c'est plutôt 2024 sur la réduction de la dépense. Quoi.
Oui, ça peut être de la baisse de dépenses fiscales aussi.
Mais oui.
Il y a un petit scandale à ma connaissance. Sur l'IFI, les 1,3 million de déclencheurs n'ont pas été revalorisés avec l'inflation. Oui. Donc on dit toujours que l'inflation, c'est un impôt non voté. Ça permet tranquillement de faire rentrer les gens dans l'IFI et en faisant bouillir la grenouille tranquillement sans qu'elle s'en aperçoive. Parce que les prix augmentent. Mais si vous laissez 1,3 million, si vous revalorisez pas le truc,
c'est comme si on n'avait pas revalorisé le barème de l'IR. Il y a des gens qui rentraient dans l'IR.
Exactement, sauf que pour l'IFI, dernière nouvelle, je crois qu'on l'a pas fait. Mais bon, sur les dépenses, n'oublions pas, il y a la dépendance aussi. On n'a pas le premier sou, on sait pas comment on va. C'est monstrueux, le mur des dépenses qui nous arrive dessus. C'est abyssal. Et alors, c'est vrai que c'est paradoxal, cette réforme des retraites qui était là pour montrer la capacité réformatrice de la France, en fait, elle nous revient en backlash parce que elle va plutôt peut-être inquiéter les gens qui pourraient nous prêter en se disant oh là là, finalement, ils sont quand même mal, ils arrivent pas du tout à trouver les économie à aucun moment. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Le problème, c'est qu'on n'est pas parti d'un diagnostic partagé sur le fait qu'il y a quand même un problème. Alors qu'on aurait peut-être pu arriver à s'accorder sur le fait, bon, il y a un déséquilibre démographique, il y a des injustices. C'était intéressant. Poser la question aussi de l'opposition entre la partie qui est contributive dans le système et la partie qui est une partie de solidarité, de redistribution. Parce que quand on dit qu'il faut baisser les grandes retraites, les retraites hautes, c'est des mecs qui ont vachement cotisé aussi. À un moment donné, on vous dit, attention, c'est pas des charges charges sociales, hein, nous disent les syndicats. Ce sont, n'est-ce pas, des salaires différés. C'est des salaires différés, mais enfin, si ça devient capé et si à la fin vous n'avez absolument pas ce que vous aviez mis au départ, c'est pas des salaires différés, hein, c'est de l'impôt avec de la redistribution complète. Mmh. Le problème du système, c'est qu'il mêle complètement l'aspect contributif qui est que tu mets derrière, de côté pour tes vieux jours, et c'est le système qui met de côté pour tes vieux jours, même si on sait que c'est la répartition en réalité, que tu mets rien de côté. Mais enfin, dans l'esprit, c'est celui-là, c'est que tu as gagné un droit à avoir cet argent que tu as mis de côté.
Certains pensent qu'ils mettent de l'argent de côté tous les mois. J'en ai entendu dans les cortèges à projet, disent ce que je mets tous les mois de côté, je veux qu'on me le restitue quand je suis à la retraite. Le sentiment
c'est quand même, c'est 27% de ton salaire total que tu mets en vieillesse.
Oui, c'est
alors, donc si après c'est capé, bon, en fait, s'il n'y a que de la solidarité, c'est-à-dire que tout est redistribué, c'est pas le même système. Je veux dire, on est vraiment dans un système d'une autre.
Ça n'a pas été du tout évoqué, ça.
On l'a jamais évoqué parce qu'à aucun moment on a dit bon qu'est-ce que les gens mettent pendant une carrière et qu'est-ce qu'ils ont, quel est le taux de retour.
Oui, oui.
Le taux de retour, c'est le truc dont personne n'a jamais parlé. Alors ce que disent les projections du Corps, c'est qu'à priori à partir de la génération 90, comme on sait, les gens qui sont nés en 90, donc ils sont pas encore à la retraite, on aura moins de 100% du taux de retour, c'est-à-dire qu'ils vont avoir moins en pension qu'ils n'auront eu en cotisation. Ça, du point de vue de l'iniquité intergénérationnelle, je trouve que c'est complètement explosif et on n'a même pas réussi à avoir ce débat là. C'est vraiment triste après en avoir parlé pendant 6 mois.
J'aimerais qu'on réponde à une réaction de Romain qui dit que parmi les explications du déficit, il y a la baisse des impôts.
Ah oui.
On peut considérer que le fait d'avoir baissé les impôts participe au déficit, parce que quelquefois, quand vous baissez les impôts, vous créez une dynamique de recettes.
Ah oui, c'est le cas pour les dividendes, par exemple.
Donc,
c'est le cas pour les dividendes. Le vrai problème, Mathieu, ce débat est compliqué, mais on a toujours un problème de compétitivité, de réindustrialisation en France, donc des niveaux fiscaux. Moi, je crois, quand on regarde depuis 2013, il y a eu des efforts qui ont été majeurs pour baisser la fiscalité des entreprises. Hein, si on prend le CICE, le pacte de responsabilité, la baisse des impôts sur la production, la baisse de l'IS, on est à entre 60 et 70 milliards par an aujourd'hui. Donc, c'est quand même un effort majeur. Ça a permis certainement de redonner une bouffée d'oxygène aux entreprises. La vraie problématique, moi, derrière, c'est que ça n'a pas eu les effets forcément attendus sur les effets de compétitivité et de réindustrialisation. C'est-à-dire que est-ce que, si on n'avait pas fait ça, ça serait bien certainement pire. Mais aujourd'hui, ces montants-là qui ont été accordés dans les transferts, effectivement, qui ne sont pas forcément financés, hein, et c'est peut-être le problème. Et d'ailleurs, quand Bruno Le Maire décide de baisser les impôts sur la production dans le plan de relance de 10 milliards, à aucun moment, il a dit comment on finance cette baisse de 10 milliards.
C'est ce que lui reproche François Villeroy de Gallo, d'ailleurs.
Voilà, et donc là, on a poursuivi, on fait encore 10 milliards de baisse d'impôts sur la production. Moi, je ne suis pas contre, parce que c'est plutôt l'industrie qui va en bénéficier, etc. Mais à un moment, on se pose la question du financement de tout ça et de l'efficacité de tout ça. Cette politique de l'offre, elle a eu certains résultats, mais on voit, en termes de compétitivité et de réindustrialisation, aujourd'hui, on a un vrai problème qui est qu'on n'est pas que dans un problème de compétitivité fiscale. Il y a aussi tout ce qui va être le hors-coût, c'est-à-dire autour des politiques industrielles, la recherche et le développement, l'innovation, les gains de productivité qu'on peut générer. Tout ça, aujourd'hui, est un peu absent du débat et on a fait des politiques, on s'est quand même beaucoup orienté sur des politiques fiscales, sans peut-être regarder aujourd'hui comment on pouvait faire en sorte d'améliorer notre croissance potentielle uniquement, pas en passant uniquement par des baisses de fiscalité. C'est-à-dire que cette baisse de fiscalité, forcément, on la retrouve dans les déficits et je crois que c'est pas la remettre en question, mais savoir en fait son efficacité est quand même une question importante, quoi. C'est-à-dire, si vous voulez réduire les déficits, à un moment, il va falloir le payer, quoi. C'est-à-dire, y compris d'ailleurs quand on fait des projections à long terme, la question de la croissance potentielle est déterminante. Aujourd'hui, on dit il faut travailler plus parce que ça augmente le nombre d'heures travaillées, donc ça augmente la croissance potentielle. Mais on a un autre problème, c'est qu'on a des gains de productivité qui sont très faibles, voire qui sont négatifs en ce moment. C'est-à-dire que depuis 3 ans, notre productivité a baissé. Donc il y a des questions qu'il faut se poser aussi sur l'innovation, la compétitivité, les gains de productivité qu'on est capable de générer. Et j'allais dire, cette baisse de fiscalité a pas permis de répondre à ce problème-là. Alors, peut-être qu'on serait dans une situation encore pire.
D'accord.
Mais voilà, il y a quand même cette question.
Certains pensent qu'on n'échappera pas à la casse fiscalité compte tenu des dépenses que nous avons à financer, car la dette est à bout de souffle.
Moi, je crois que ça va être compliqué. Hein, mais...
On parle de ChatGPT. Allez-y, un mot.
Juste un mot pour dire que le gros problème, c'est que dès qu'on change la fiscalité, on affecte la base fiscale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas neutre. C'est-à-dire que vous baissez les impôts, vous les augmentez, ça va jouer énormément sur la base fiscale que derrière, parce que les agents, ils réagissent à ça. Et je pense qu'on sous-estime aussi un coût très important, c'est les changements de fiscalité. C'est-à-dire qu'on a eu tellement de changements. Ça déstabilise l'économie. Faut le dire le mot. Ça déstabilise l'économie parce qu'à un moment donné, les agents, ils vont réagir. Vous fiscalisez l'immobilier, vous défiscalisez l'étoile de maître. Et ben, je peux vous dire, tout de suite, ça a un impact très fort sur le patrimoine des agents. Et donc, derrière, ça a des impacts économiques sur les secteurs d'activité.
Et
vous avez votre base fiscale qui va évoluer et vous n'avez pas la rentabilité ou vous allez avoir des surprises sur vos rentabilités. Et donc, le gros problème, c'est ça le gros problème aujourd'hui que l'on a, c'est les changements de fiscalité qui perturbent énormément l'économie. Et ça, c'est un vrai coup parce qu'aujourd'hui, vous dites à une entreprise, je vous fais un impôt de production. Bon, c'est pas forcément bien, on va dire que c'est l'impôt le plus stupide du monde, mais elle va le prendre en compte dans son business model, elle va le prendre en compte. Demain, vous lui augmentez, vous lui baissez, ça lui met en... Alors, la baisse est toujours mieux venue, mais vous lui augmentez, ça peut complètement remettre en cause sa rentabilité. Et donc ça, c'est un vrai problème pour l'investissement, pour se projeter. Et donc, je trouve que c'est ça surtout que devraient faire attention les politiques, c'est donner une visibilité sur ce qu'ils font au niveau fiscal.
Il y a eu un exemple très très intéressant, un cas pratique de ce que vous décrivez sous François Hollande, Christian Ecker, qui avait généralement tendance à imposer des décisions qui ne sont pas tellement des décisions pro-business dans les différents textes de loi de finances, avait considérablement réduit la subvention par heure travaillée dans les emplois à domicile. On était tombé à moins de... qu'est-ce qui s'est passé? Travail au noir a commencé à exploser. Ils ont vu le travail au noir qui prenait une telle dimension. Donc là, pour le coup, effectivement, on subventionne moins, mais alors il n'y a plus de cotisation du tout. Il n'y a plus de CIR différé. Ils ont remis le niveau de subvention par heure travaillée au niveau ancien et le travail au noir a baissé.
Mais il y a des effets comme ça qui peuvent être importants. Et donc, sur les politiques fiscales, il faut donner de la visibilité. Là, on a fait beaucoup de baisses de fiscalité qui ont été quand même maintenues. Mais effectivement, on ne comprend pas bien la trajectoire de long terme tout ça, et puis de financement en face. Et donc, c'est vrai qu'on dit il va falloir réduire la dépense publique, mais on voit bien que la dépense publique, il y a des besoins, on les a dit, sur la dépense, que ce soit la santé, l'éducation, la justice, la défense, qui sont importants. Donc, il va falloir trouver un moment les leviers. Et c'est vrai que la question des ressources fiscales va se poser, parce qu'à court terme, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'augmenter la fiscalité que réduire les dépenses.
Il y a cet auditeur qui m'écrit « Réduisez le millefeuille et supprimez la moitié des échelons des fonctionnaires dans la fonction d'État et vous allez générer des milliards d'économies. » ChatGPT-4, Monsieur Olivier Babot, vous prenez la version 1 et la version 4, c'est plus le même monde. Là, la version 4, elle a été capable de réduire, de réaliser avec succès en 10 secondes un problème d'entrée à Polytechnique.
Oui, absolument.
Regardant le sujet avec une caméra.
Alors que la version 3, elle butait sur un problème de maths de CM2. Vous voyez l'exponentielle sur laquelle on est. Alors, on parlait de mur de la dépense, mais il y a un mur de l'intelligence artificielle qui arrive. Donc, l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, parce que c'est ça, ChatGPT, c'est pas le seul outil, il y en aura plein, en fait, c'est en train de se développer à une vitesse, mais on parle plus en mois, on parle en semaines, peut-être même en jours, en fait, tellement les progrès sont rapides. Ce truc-là va avoir un impact sur l'ensemble de l'économie, sur la façon de travailler, sur la production d'intelligence dont le coût marginal va tomber à zéro et qui va avoir un effet aussi sur les compétences qui vont être nécessaires dans les entreprises. Aujourd'hui, c'est complètement incroyable, que ça ne fasse pas la une de tous les médias, de tous les journaux, qu'on ne soit pas là en permanence à se dire mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est vraiment demain, à la limite, la réforme des retraites, c'est un truc à long terme, mais là, c'est un truc à très court terme. On parle de quelque chose qui va changer le monde dans les 2, 3 ans, 4 ans qui viennent. C'est-à-dire avant la fin du quinquennat, c'est absurde et incompréhensible que ça ne soit pas aujourd'hui, qu'il n'y ait pas une cellule de crise en permanence à l'Élysée pour essayer de dire mais qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à s'adapter, parce que ce truc-là est un tsunami qui arrive en plus avec une violence qui est absolument incroyable. Je crois que c'est Édouard Tétrault dans les Échos, je crois, de ce matin, qui dit ChatGPT c'est Gutenberg plus la bombe atomique. Voilà. En termes de rapidité, de puissance, et Gutenberg en termes aussi de démocratisation du savoir, mais avec des effets qui sont extrêmement rapides. En fait, c'est inouï. Je veux dire, c'est pas un gadget, quoi. Il faut bien comprendre que le truc est d'une puissance absolument incroyable. Jusque-là, vous alliez sur Google, vous alliez donner une question, vous aviez 6000, une liste de 6000 sites classés certes par ordre d'importance, vous alliez vous-même chercher la réponse. Aujourd'hui, il va lui-même faire la réponse. Il est aussi capable de faire vraiment des choses de créativité avec de l'image, en créant l'image, en créant des choses animées. Il y a le text-to-text, le text-to-picture, le text-to-motion. Et tout ça est en train de révolutionner un nombre de métiers extraordinaires. Il est capable d'écrire des comptes contrat, par exemple, exactement comme tu veux le faire? Est-ce que les notaires, les avocats n'ont pas aujourd'hui à regarder ça de très près? Tous les gens dans l'entreprise avec qui on discute aujourd'hui, ils commencent déjà à l'utiliser. Hein, et pas seulement pour faire l'exposé du petit à l'école, ce qui, entre parenthèses, est aussi très pratique. Mais il y a un nombre d'utilisations. Il y a les programmes informatiques.
C'est monstrueux.
Ça accélère, ça empouvoir, comme on dit, le travail de beaucoup de gens, ça pourrait aussi le remplacer.
On raconte qu'on a demandé à ChatGPT-4 d'écrire un poème à la façon de Baudelaire. Alors, j'ai pas vu le résultat final, mais il semblerait que ça peut rentrer dans les fleurs du mal sans problème, quoi, et qu'on y verrait du feu.
À la version d'avant, ça c'était pas génial. Voilà, ça s'améliore beaucoup là.
Ça vous inquiète ou pas, Mathieu Plane, Christian Parizeau? C'est le côté exponentiel qui, oui, effectivement, est tout à fait très 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 impressionnant.
Alors exponentiel, mais quand même, faut pas l'oublier, c'est que il consommera toujours plus d'énergie qu'un cerveau humain. Mais pour faire des choses, pour l'instant, oui, mais ça reste encore vrai. Et puis d'autre part, il ne fait que imiter. C'est le père de l'intelligence artificielle qui avait parlé au début de on saura qu'on a une vraie intelligence artificielle le jour où on pourra avoir un imitateur de l'intelligence qu'on pourra pas savoir si on a un être humain ou pas.
C'est
Monsieur Turing qui nous a
aidé.
C'est qu'il peut aujourd'hui, on a une vraie intelligence artificielle dans cette définition là où on a un imitateur. Mais on n'est pas sur de l'intelligence. On est quelqu'un qui imite l'intelligence. Mais ceci dit, ça, d'avoir un imitateur, on peut faire beaucoup de choses en imitant l'intelligence. Le problème, c'est qu'il peut faire un poème comme Baudelaire, mais parce qu'il y a eu Baudelaire avant. Mais il n'aurait pas créé Baudelaire. Donc c'est ça la grosse différence. Mais par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que économiquement, son potentiel est énorme, parce que nous, dans nos métiers, on fait beaucoup de choses où on répète ce qu'on a fait précédemment, où on répète des process. Et donc là, très clairement, pour l'emploi des cadres, sur une partie de leur activité d'emploi, ça va être énorme. Alors, on va dire que ça va être une petite partie, parce qu'il n'y a pas la créativité, il n'y a pas cet aspect-là. Mais attention, parce que ça veut dire qu'on va avoir beaucoup besoin de beaucoup moins de personnes pour faire la même chose. Parce que tout ce qui est routinier, tout ce qui est répétition, qui ne demande pas de créativité, et ben ça, par contre, ça pourra être remplacé par cette
attitude. Un mot, Mathieu. C'est intéressant, parce que là, c'est quand même une révolution, et c'est voir comment on va s'adapter à cette révolution, y compris sur ce qui a été dit par Olivier, sur le marché du travail, dans l'éducation, sur un certain nombre de choses. Et pour boucler avec ce débat sur les retraites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de l'horizon 2030, c'est qu'est-ce que va avoir cet effet-là sur l'emploi, sur la productivité. À long terme, on est quand même face à quelque chose qui est assez particulier jusqu'à présent, c'est qu'on a quand même des révolutions qui avaient commencé dans le digital, mais on voyait, comme disait justement l'autre, on voyait des ordinateurs partout, sauf dans les chiffres, quoi. Et la question, c'est est-ce qu'on le verra un jour, justement, sur les trajectoires productives, et est-ce que ça va remplacer l'emploi aujourd'hui?
J'ai jamais eu peur vraiment des robots, mais je me suis toujours dit le jour où l'intelligence au silicium remplace l'intelligence carbonée, ça passe un petit quelque chose, et c'est pas un petit quelque chose. Merci Olivier Babot, Christian Parizeau, Mathieu Plane, rendez-vous demain 9h.